Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape François poursuit une convalescence régulière. Ces jours-ci, il a reçu des visites de certains préfets et supérieurs des dicastères de la Curie romaine. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la salle des presses du Saint-Siège vendredi. Quatrième et dernière prédication de carême assurée vendredi par le père Roberto Pasolini, prédicateur de la maison pontificale. Une délégation du diocèse de Changungu au Rwanda en visite dans l'archidiocèse de Bukavu en République démocratique du Congo dans un contexte de crise sécuritaire persistante. Des messes chrismales célébrées dans les diocèses d'Nkayi au Congo-Brazzaville et de Pala au Tchad. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira notamment au Soudan du Sud, en Somalie, en République démocratique du Congo. Élection présidentielle au Gabon ce samedi 12 avril. Vous écouterez l'analyse de Lisiane Neyer à ce sujet. Nous conclurons cette édition par un tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Dans la maison Sainte-Marthe au Vatican, le pape François poursuit une convalescence régulière. C'est ce qu'a fait savoir la salle des presses du Saint-Siège vendredi. Les détails avec Françoise Niamia.
Le cadre clinique est stationnaire avec des améliorations progressives, notamment en ce qui concerne la motricité, la respiration et l'usage de la voix. De plus, les analyses de sang sont bonnes. Le pape n'a pas recours à l'oxygénation pendant des périodes prolongées. Les hauts débits ne sont plus qu'un usage peu fréquent et principalement à des fins thérapeutiques, a indiqué la salle de presse du Saint-Siège. Aussi, ces derniers jours, plusieurs préfets de dicastères et responsables de la curie romaine ont été reçus par le Saint-Père. Dans la journée de jeudi, le pape s'était rendu dans la basilique Saint-Pierre pour prier. Aucune information n'a été donnée à propos de la présence du souverain pontife aux célébrations de la Semaine Sainte. Toutefois, le cardinal Leonardo Sandri, vice-doyen du Collège des cardinaux et préfet émérite du dicastère pour les églises orientales, célébrera la messe du dimanche des Rameaux par procuration du pape. Le prochain briefing se tiendra mardi saint, a conclu la salle de presse du Saint-Siège.
Merci Françoise. Ancré dans le Christ, enraciné et fondé dans l'espérance d'une vie nouvelle. C'était le thème de la quatrième et dernière prédication du carême, tenue vendredi dans la salle Paul VI par les prédicateurs de la maison pontificale, le père Roberto Pasolini. Au cœur de cette prédication ouverte à tous était la réflexion sur l'ascension et l'enseignement du Christ à quitter les siens pour donner à l'histoire la liberté et une vie nouvelle. Pour nous, il s'agit d'élargir les frontières pour une espérance plus universelle et inclusive, a dit le père Pasolini qui a salué le pape François tout au début. Dans un contexte de crise sécuritaire persistante à l'est de la République démocratique du Congo, l'archidiocèse de Bukavu a reçu mercredi une délégation du diocèse rwandais de Changugu, son diocèse voisin. Pour Mgr François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, il s'agit d'une visite fraternelle et de réconfort qui favorise la communion au-delà des frontières géographiques et qui invite à continuer à prier pour la paix.
La visite était fraternelle. La visite était de réconfort, la visite était des témoignages de notre fraternité. C'est ça qui a fait qu'ils viennent ici. Les circonstances étant ce qu'elles sont, ils ont trouvé que c'était positif de venir en ce moment réconforter les diocèses voisins, les diocèses frères, pour qu'ensemble nous continuions à prier pour la paix dans notre sous-région. Je dirais que plus qu'amis, on est frères. Naturellement, et on devient frère spirituellement en confessant la même foi. Je pense que nous devons être plutôt un exemple dans cette fraternité, dans cette communion envers tous, que les frontières géographiques, politiques, je ne sais pas quoi, ne fassent pas de frontières dans l'Église qui est fondée sur le Christ et le Christ qui nous invite tous à l'unité des enfants de Dieu de par le monde entier.
Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu en République démocratique du Congo. Pour sa part, Monseigneur Édouard Sinayo Bié, évêque de Changugu au Rwanda, a souligné que cette visite d'amitié était voulue pour partager l'aspiration à la paix.
Nous sommes venus ici en visite d'amitié, visite de fraternité, pour rendre visite à nos amis, à nos frères et sœurs, et représentés par Son Excellence Monseigneur François Maroy, archevêque de Bukavu. Nous avons suivi avec douleur et espérance les événements qui sont en train de se passer dans ce pays. Nous sommes venus pour réconforter nos frères et sœurs et partager avec eux l'aspiration à la paix.
Monseigneur Édouard Sinayo Bié, évêque de Changugu au Rwanda, des propos recueillis par Benjamin Mukanire. À l'approche du Jeudi Saint, certains diocèses ont commencé à célébrer des messes chrismales par anticipation. C'est le cas du diocèse d'Nkayi au Congo-Brazzaville. Entourant Monseigneur Daniel Mizonzo, leur évêque, une centaine de clercs et de nombreux fidèles laïcs ont participé à cette Eucharistie mercredi, manifestant ainsi l'unité de l'Église diocésaine. Monseigneur Mizonzo a saisi l'occasion pour dresser un bilan des événements qui ont marqué l'année pastorale en cours, tout en invitant à toujours garder l'espérance. Séverin Moussavou était présent.
Lors de l'homélie de cette messe christmale par anticipation, l'évêque diocésain d'Nkayi, Monseigneur Daniel Mizonzo, a exhorté sa communauté diocésaine en ces termes.
Dans cette prédication, je ne peux pas taire ce que nous avons vécu dans notre diocèse, à savoir la visite fraternelle du légat du Saint-Siège. Je ne peux pas taire non plus les événements que nous vivons actuellement dans nos familles. Mais pour tous ces événements, absolument, nous devons garder la vertu d'espérance qui ne déçoit pas. Saint Paul ajoute, il faut espérer contre toute espérance. Autrement dit, il faut toujours espérer, même quand nous faisons l'expérience de l'absence et du silence apparent de Dieu.
Pour manifester l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son pasteur propre, le presbytérium de Nkayi et les personnes consacrées ont renouvelé leurs engagements sacerdotaux. Monseigneur Mizonzo a aussi béni les saintes huiles et a consacré le Saint-Crème. Sévéra Moussavou, Kayi pour Radio Vatican.
Messe chrismale également au diocèse de Pala au Tchad. Jeudi, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, Monseigneur Dominique Tinouji était entouré de prêtres et diacres. Cette messe a aussi marqué la fin de la rencontre du presbytérium du diocèse des Palas, commencée depuis le 8 avril. Les détails d'Edouard Takadji.
Cette rencontre du presbytérium placée sous le thème « Pèlerin de l'espérance dans les fonctions sacerdotales et royales » offre l'occasion aux prêtres exerçant dans les diocèses des Palas de s'évaluer, mais également réfléchir sur la vie de l'Église famille de Dieu qui est à Pala et de la société. L'ordinaire du lieu, Mgr Dominique Tinoji, revient sur le bien fondé de cette rencontre du presbytérium.
C'est aussi l'occasion de nous examiner et d'examiner nos attitudes par rapport à ces triples fonctions. Comment nous nous organisons pour nous nourrir de la parole de Dieu afin de nourrir le peuple de Dieu à travers notre enseignement? Comment nous nous organisons pour nous sanctifier et sanctifier le peuple de Dieu à travers les sacrements? Comment exerçons-nous notre pouvoir de gouverner? Est-ce à la manière du Christ comme serviteur ou bien à la manière du monde comme des chefs qui font sentir leur pouvoir?
Cette rencontre du presbytérium intervient quelques jours après l'effondrement d'un mur d'une école primaire ayant causé la mort de 5 élèves et de nombreux blessés, plongeant ainsi cette église famille de Dieu qui est à Pala dans une désolation sans précédent. Edouard Takadji Ndjamena pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. Au moins 25 civils, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été tués vendredi au Soudan dans une attaque des paramilitaires, des forces de soutien rapide contre un camp des déplacés dans l'état du Darfour Nord, ont indiqué des membres d'un comité local de résistance. L'attaque menée au matin s'est accompagnée des bombardements et des tirs intenses qui ont visé les camps des déplacés des Zamzamp depuis le sud et l'est. C'est ce qu'a précisé dans un communiqué le comité local de résistance, groupe pro-démocratie qui coordonne l'aide au Soudan en proie depuis 2 ans à une guerre pour les contrôles du pouvoir entre l'armée et les paramilitaires. Des hôpitaux de la Somalie font face à un afflux des blessés du fait d'une forte escalade des hostilités dans plusieurs régions, a affirmé vendredi le comité international de la Croix-Rouge, alors que les djihadistes Shebab avancent. Les Shebab, groupes armés liés à Al-Qaïda, sont repassés à l'offensive et ont multiplié les attaques ces derniers mois, après être resté dans une posture défensive en 2022 et 2023 face au gouvernement qui avait repris l'avantage, aidé par ses partenaires internationaux. Les violences sexuelles visant les enfants dans l'est de la République démocratique du Congo n'ont jamais été aussi nombreuses, a affirmé vendredi l'UNICEF, dénonçant une véritable crise systématique. Des milliers d'enfants ont été victimes des viols et des violences sexuelles en seulement 2 mois au début de l'année, a déclaré un porte-parole de l'UNICEF, James Elder, lors d'un point de presse. 19 mois après les coups de libération du 30 août 2023 qui avaient renversé la dynastie des Bongo, les Gabonais sont appelés aux urnes ce samedi 12 avril pour élire un nouveau président. Le général Brice Oligui Nguema, qui a présidé la transition, est considéré comme le grand favori du scrutin face à 7 autres candidats, dont le dernier premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Biliebinze. Que peut-on s'attendre de cette élection présidentielle? Analyse de Lisiane Neyer. Elle est secrétaire nationale aux médias et porte-parole du Parti pour le changement.
Le principal enjeu de ce scrutin, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. En effet, nous sommes en transition depuis 19 mois déjà, à la suite d'un coup d'État militaire. Le candidat Brice Oligui apparaît comme étant favori de cette élection, déjà parce que c'est la figure de la libération, c'est lui qui a présidé les opérations qui ont conduit à ce coup d'État du 30 août. Le général Oligui Nguema s'est présenté d'abord comme étant un militaire et il a souvent répété que ce n'était pas un homme politique.
Le général Oligui bénéficie aujourd'hui d'une certaine popularité et de nombreux soutiens de caciques de la politique gabonaise. Qu'est-ce qui lui a valu cette longueur d'avance?
À observer sa campagne, je pense qu'il a démontré des capacités de stratège politique qu'on ne lui connaissait pas et qu'on doit lui reconnaître. Au début de sa campagne, effectivement, l'opinion a été un peu choquée de voir autant de PDGistes entrer dans ses équipes de campagne. Mais nous avons également vu que plus la campagne a évolué, plus ces figures se sont faites de plus en plus discrètes. Le message derrière que je pense qu'a voulu envoyer le général Oligui, c'était de casser cette image de militaire strict, autoritaire. Je pense qu'il a voulu montrer qu'il est capable de travailler avec tout le monde tout en gardant sa ligne et ses ambitions intactes.
Parmi les 7 autres candidats, Alain-Claude Dernier, premier ministre du régime Bongo, est considéré comme le principal challenger du général Oligui. Comment se positionne-t-il dans cette course pour la présidentielle?
Le candidat Alain-Claude Biliebinze, oui, certains le décrivent comme étant le principal challenger. Mais ce que je peux dire sur sa campagne, c'est qu'on lui reconnaît une bonne technicité, une bonne connaissance des dossiers, des rouages de l'État. Par contre, il peine à véritablement entrer dans le cœur des Gabonais qui lui en veulent encore beaucoup pour le rôle qu'il a joué auprès du système déchu. Nous voyons dans sa campagne une urgence de convaincre sur sa rédemption. Son message s'articule principalement autour d'une figure de style, c'est-à-dire « j'ai fait mon chemin de Damas ». Il se compare à Saul de Tarse. Sauf que le timing choisi n'est pas suffisamment grand pour permettre à ce que les Gabonais puissent véritablement lui accorder le bénéfice du doute.
19 mois après la chute de la dynastie Bongo qui a régné plus de 50 ans, quelles sont aujourd'hui les attentes du peuple gabonais?
Vous savez, les Gabonais, leur principale récrimination envers ce système, c'était de voir qu'on avait autant de richesses et que les Gabonais n'en bénéficiaient pas, que le pays ne se développait pas, que nous avions plus de personnes qui faisaient de l'enrichissement personnel au détriment de la majorité de la population.
Les attentes des Gabonais sont principalement d'ordre social. Nous avons un taux de chômage qui commence à devenir alarmant, un système de santé qui doit être vu et amélioré. Nous avons une économie à diversifier. Autant d'enjeux.
La corruption, c'est une gangrène qui touche toutes les souches de la population. Que nous ayons une justice beaucoup plus indépendante et beaucoup plus proactive. Ce que les Gabonais attendent de leurs dirigeants, c'est de voir leur quotidien être impacté par les politiques publiques qui sont mises en place.
Vous venez de suivre Lysiane Neyer, secrétaire nationale aux médias du Gabon et porte-parole du Parti pour le changement. Des propos recueillis par Myriam Sandouno. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine. Parole à Françoise Niamia.
Commençons cette synthèse de l'actualité internationale par la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine. La Chine a annoncé vendredi porter ses droits de douane supplémentaires sur les produits américains à 125%, une nouvelle étape dans la surenchère de tarifs douaniers entre les deux premières puissances mondiales. L'imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international et représente une pratique unilatérale d'intimidation et de coercition, a affirmé la Commission des droits de douane du Conseil des affaires d'État dans un communiqué publié par le ministère des Finances. Aussi, le président chinois Xi Jinping a appelé vendredi l'Union européenne à résister ensemble face à la guerre commerciale de Donald Trump qui maintient les marchés boursiers dans un état de grande fébrilité. Face à cette guerre commerciale, Rebecca Grispan, la secrétaire générale de l'ONU Commerce et Développement, a appelé jeudi les États-Unis à épargner la douleur des droits de douane aux pays les plus pauvres, dont beaucoup ne contribuent pas au déficit commercial américain. Le gouvernement allemand a pour sa part appelé vendredi Washington et Pékin à trouver une issue négociée sur les droits de douane, soulignant que l'économie allemande ne serait pas épargnée par cette escalade de la guerre commerciale entre les deux puissances. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé vendredi son engagement à ramener les otages toujours retenus dans la bande de Gaza dans un message à l'occasion de la Pâque juive. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé vendredi la poursuite des opérations de l'armée birmane en dépit d'un cessez-le-feu annoncé après un puissant séisme qui a fait plusieurs milliers de morts et provoqué des destructions à grande échelle. La République dominicaine a commencé jeudi à faire le deuil des victimes de l'effondrement du toit de la discothèque de Saint-Domingue, au moins 221 victimes recensées du drame survenu mardi. Les autorités ont promis l'ouverture d'une enquête dès la fin des fouilles. Le 13 avril coïncide avec le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre civile au Liban, un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle, avec plus de 150 000 morts, des centaines de milliers de blessés et des millions de déplacés. Des événements sont organisés dans tout le Liban. À Beyrouth, Paul Ralifé.
50 ans après le déclenchement de la guerre civile, le retour à un conflit interne au Liban hante toujours les esprits. La commémoration de cet épisode historique tragique intervient cette année alors que le Liban sort à peine d'un conflit dévastateur avec Israël. Une guerre qui a profondément divisé les Libanais entre partisans et détracteurs du Hezbollah, lequel prône la lutte armée contre l'État hébreu. 35 ans après la fin du conflit, les mêmes lignes de fracture confessionnelle que celles qui prévalaient en 1975 traversent le pays. Les chiites et une partie des sunnites soutiennent l'option militaire contre Israël. Une majorité de chrétiens et une partie des sunnites plaident pour la méthode diplomatique. Un débat souvent acerbe secoue la société libanaise entre les partisans du désarmement du Hezbollah et ceux qui souhaitent un Liban fort, capable de se défendre. Malgré la polarisation des forces politiques et de la population, la situation reste jusqu'à présent gérable. La tension est palpable par la présence discrète d'unités de l'armée libanaise le long de l'ancienne ligne de démarcation qui coupait Beyrouth en deux durant la guerre civile. Cette artère qui délimite les régions à majorité chrétienne et celles à majorité musulmane est parfois le théâtre de rixes et d'accrochages armés. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.